Dans le cadre du projet Radio Résistance, Cyprien Capdeville, professeur documentaliste au Collège de la Chapelle en Vercors, a organisé une rencontre en visioconférence entre ses élèves de 3e et Pierrick Bonneau. Pierrick Bonneau est journaliste. À la demande de l'ONG Radio Sans Frontières, il est parti pendant 11 mois à Erbil, dans le nord de l'Irak, dans la région du Kurdistan. Son rôle est double, correspondant pour France Info et coordinateur de Radio El Salam, la radio de la paix.
Je m'appelle Pierrick Bonneau, comme vous le savez, je suis journaliste depuis 5 ans. Je travaille à Radio France, la radio, mais je travaille cette année pour un projet de télévision qui s'appelle France Info. Si vous avez déjà regardé France Info.
Oui,
une fois.
Le canal 27, normalement, de votre télé. Et donc, je fais les news pour cette chaîne de télé. Et avant ça, j'étais en Irak. Donc, je suis parti un an en Irak ouvrir une radio pour les réfugiés qui s'appelle Radio Al-Salam, la radio de la paix en arabe. Voilà, c'est à peu près tout ce qui devrait vous intéresser pour l'instant. Journaliste, c'est un métier qui consiste à transmettre l'information. Voilà, c'est comme ça que je le résumerai le plus facilement possible. Donc on transmet l'information aux gens qui nous lisent, qui nous regardent ou qui nous écoutent. Donc voilà, on peut être journaliste à la radio, on peut être journaliste à la télé, on peut être journaliste dans un journal de presse écrite, et on peut être journaliste sur Internet également. Mais notre mission commune à tous, c'est de transmettre l'information d'un point A vers un point B, donc vers les auditeurs, les téléspectateurs, les lecteurs ou les internautes.
Qu'est-ce qui vous a poussé à partir en Irak pour faire cette radio ?
Ce qui m'a poussé à partir là-bas, c'est qu'en fait, un collègue à moi qui travaillait à Radio France, qui est journaliste également, à une association qui s'appelle Radio Sans Frontières. Et cette association a pour mission principale de monter des radios un peu partout dans le monde, dans les zones difficiles, dans les zones où les gens ont besoin de radio. Je vous parle de Daesh, vous voyez de quoi je parle. Voilà. Donc quand Daesh en fait a envahi des territoires en Irak et en Syrie, donc l'Irak c'est à l'est de la Turquie, je ne sais pas si vous voyez la Turquie, je ne sais pas si vous arrivez à situer l'Irak, mais... c'est à 5000 km de Paris. Et lorsque Daesh, en fait, a étendu son pouvoir, en fait, en Irak et en Syrie, ça a provoqué un dépassement de population. Et donc, il y a des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui ont été chassées de chez eux, en fait, et qui se sont réfugiées au Kurdistan irakien, donc dans cette partie nord de l'Irak, sans nourriture, sans famille parfois, sans argent et sans rien. Donc il fallait être là pour pouvoir leur parler, leur dire ce qu'ils pouvaient faire. Il y a beaucoup d'associations et d'organisations internationales qui aident les réfugiés là-bas à Erbil. Donc nous, notre mission, c'était vraiment d'être une espèce de plateforme, en fait, pour pouvoir communiquer avec eux. Donc ce collègue de Radio France m'a sollicité, j'ai réfléchi, j'ai accepté. Et je suis parti en Irak. Voilà, ça s'est fait assez simplement, en fait. Il n'y a pas eu de. Je me suis posé la question parce que l'Irak, c'est pas un pays facile, mais je suis parti là-bas avec plein de choses à faire. Alors il y avait cette partie de la mission qui était effectivement de monter la radio, et il y avait une autre partie de la mission qui était d'être correspondant de presse. Correspondant de presse, c'est le représentant d'un média dans un pays étranger. Et j'étais ce représentant pour Radio France, donc j'ai travaillé pour Radio France pendant un an à Erbil.
Pourquoi vous avez voulu faire ce métier ?
Pourquoi j'ai voulu faire ce métier ? J'ai voulu faire ce métier, je pense, parce que j'ai besoin d'être au contact des gens. Journaliste, c'est vraiment un métier où on rencontre des gens tous les jours, voilà. Où on est là pour les écouter, on est là pour recueillir leurs témoignages, on est là pour parler de leur vie. On est là, en fait, pour transmettre ce qu'ils ont à transmettre. Comme je vous disais tout à l'heure, un journaliste, c'est vraiment transmettre une information d'un point A à un point B. On est un médiateur, en fait. On est entre deux groupes de personnes, et on est là pour essayer, en tout cas, de transmettre l'information. Et moi, j'avais besoin, je pense, d'être au contact de ces gens. J'avais besoin de... Je pense aussi que j'avais besoin de partir à l'étranger. Je pense que c'est une partie du métier qui n'est pas forcément la principale, mais j'avais aussi envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. En fait, il faut se dire qu'un journaliste, c'est vraiment une voix, quoi. On est la voix de ceux qui n'en ont pas forcément, ou de ceux qui n'ont pas forcément les moyens de se faire entendre. Donc voilà. Donc j'ai voulu faire ce métier pour ça, je pense, Il y a aussi une part de... Vous savez, nous les journalistes, on est toujours là où les autres ne peuvent pas aller. C'est le cœur de notre métier. On est là pour aller dans des zones, pour aller dans des événements, pour aller traiter des sujets, pour aller au contact de populations que d'autres personnes ne peuvent pas rencontrer. Notre mission, c'est un petit peu ça aussi. Et ça m'a toujours plu de me dire que je pouvais aller là où les autres ne pouvaient pas aller. Ça a été ma motivation première, je pense. Est-ce que ça m'a plu ? Alors, non seulement ça m'a plu, mais en plus, ça a changé ma vision du métier, ça a changé ma vision du monde aussi, parce que l'Irak, c'est un pays très difficile. C'est un pays où beaucoup de gens souffrent, où beaucoup de gens subissent la guerre depuis des décennies maintenant. Donc ça m'a changé énormément, effectivement. Ce qui m'a changé le plus, en fait, c'est la vision du métier, je pense. Parce qu'on n'est pas journaliste de la même façon si on est en Irak et si on est à Paris ou chez vous dans les montagnes dans le Vercors, donc c'est un petit peu différent. Après, essaye de préciser un peu ta question parce que savoir ce que ça a changé, si ça m'a plu, oui ça m'a plu, mais ça m'a changé de mille façons différentes, donc je peux vous en parler en détail si vous voulez, mais cette expérience, alors c'est assez marrant parce que j'ai pas souvent à répondre à ces questions. Je pense que cette expérience m'a surtout appris à être indépendant dans mon métier. Il y a quelque chose d'important quand on est journaliste, c'est l'indépendance. Voilà. On est censé réussir nous-mêmes à construire des reportages, à construire, à aller chercher des témoignages. Et quand on est tout seul en Irak, parce que j'étais concrètement tout seul en Irak, en fait, c'est ça le cœur de cette mission, c'est que je suis parti tout seul. Donc je suis parti tout seul travailler pour un média. Je suis parti tout seul monter la radio. Vous comprenez bien la double activité, hein. D'une part, j'étais parti là-bas pour créer une radio, et d'autre part, j'étais parti là-bas aussi pour travailler pour plusieurs médias français, dont Radio France. Donc il y a cette indépendance qui est essentielle dans le métier, que j'ai appris là-bas, que je connaissais pas. C'est pas forcément simple de se retrouver effectivement tout seul à 4000 km, tous les matins, se réveiller tout seul, de travailler toute la journée tout seul, et de se recoucher le soir encore tout seul, sans savoir vraiment si ce qu'on fait correspond à la réalité.
Alors, juste une question.
Vas-y.
Est-ce que tu parles arabe ?
Non, je parle pas arabe. Comme ça, vous... Alors oui, il y a cet aspect aussi, effectivement, qui est central, c'est qu'à un moment donné, je suis parti dans un pays dont je comprenais pas la langue. Voilà. Et figurez-vous que ça m'a pas gêné. Alors les gens parlent anglais, je parle anglais, donc je m'exprimais avec eux en anglais la plupart du temps. J'ai essayé d'apprendre l'arabe, mais c'est très très long et j'ai pas réussi, j'ai pas eu le temps. Mais on n'a pas besoin de parler la langue du pays pour partir dans un pays. C'est peut-être un message aussi que j'aimerais vous faire passer, c'est qu'à un moment donné, si vous avez envie de partir, vous pourrez toujours partir. Faut pas vous dire, je vais pas aller en Angleterre parce que je parle pas anglais, je vais pas aller en Allemagne parce que je parle pas allemand, je vais pas aller en Espagne parce que je parle pas espagnol. Alors je vous conseille quand même de travailler les langues, c'est important. mais c'est pas un obstacle, voilà. Je parlais pas arabe.
Du coup, je t'ai coupé sur comment est-ce que ça s'était passé concrètement?
Donc voilà, donc tous les jours, je peux peut-être vous parler d'une journée type. En fait, le matin, je me levais, je regardais ce qui se passait dans la presse locale, donc dans les médias locaux. J'allais à la radio, j'ai recruté une équipe pour monter cette radio, donc des jeunes, quatre jeunes qui avaient entre 18 et 25 ans, que j'ai formés au métier de journaliste radio, et qui, parce que moi, je faisais pas de radio pour la radio que j'ai montée, en fait, j'ai dirigé la radio. Et voilà, je les ai formés à un métier qu'ils connaissaient pas du tout. Et je leur ai appris à aller chercher l'information. Le journalisme, c'est ça, c'est aller chercher l'information. Je leur ai appris à faire ça, je leur ai appris à faire des interviews, je leur ai appris à monter un reportage, je leur ai appris à parler derrière un micro. Une fois que je leur ai appris à faire ça, il fallait gérer au quotidien la radio. Donc il y avait des problèmes administratifs, parce qu'une radio, ça se monte pas comme ça. Il y avait des problèmes aussi liés aux gens qui nous écoutaient, parce que certaines personnes n'étaient pas d'accord avec ce qu'on disait, normal. L'Irak, c'est un pays qui est en guerre, donc dans une guerre, il y a de la propagande. Et la propagande, ça plaît à certaines personnes et ça plaît pas à d'autres. Donc voilà. Donc on avait souvent des coups de téléphone, des gens qui venaient à la radio pour nous dire « Vous n'avez pas le droit de dire ça, vous n'avez pas le droit de parler des musulmans de cette façon-là, vous n'avez pas le droit de parler des catholiques de cette façon-là. » Donc il fallait gérer un peu tout ça au quotidien et ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps.
Voilà un mois que la radio Al-Salam émet dans la région d'Erbil, dans le Kurdistan irakien. Al-Salam, littéralement, la radio de la paix, veut connecter et aider les centaines de milliers de réfugiés qui ont fui les combats et Daesh dans le nord de l'Irak.
J'arrivais à communiquer avec mon équipe en anglais. Et les quatre personnes en fait qui ont formé mon équipe parlaient à eux quatre, ils parlaient toutes les langues qui sont parlées au Kurdistan, parce qu'au Kurdistan irakien, en fait, il faut savoir qu'on parle pas une seule langue. Les gens parlent plusieurs langues entre eux, et certaines personnes se comprennent pas. Donc au Kurdistan irakien, on parle arabe, bien sûr, on parle kurde également. Il y a plusieurs dialectes, donc il y a des Kurdes qui se comprennent pas entre eux, parce que certains parlent un dialecte et un autre parle un autre dialecte. Et il y a aussi une langue qui s'appelle l'araméen, en Irak, qui est une des langues les plus vieilles du monde, qui est parlé par les chrétiens, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, hein, il y a beaucoup de chrétiens, de moins en moins, mais il y a encore quelques chrétiens en Irak, et eux parlent araméen. Donc dans mon équipe, j'avais quatre personnes qui parlaient, alors certains parlaient kurde et arabe, d'autres parlaient arabe et araméen, d'autres parlaient seulement arabe, mais tous parlaient anglais, quasiment, ou français. Donc moi, effectivement, quand j'allais à l'extérieur, quand j'avais besoin de faire des reportages, ou quand j'avais besoin de sortir dans les camps de réfugiés pour aller avec eux, ils me faisaient la traduction en général. Donc voilà, ils faisaient leur reportage, ils posaient des questions et ils me traduisaient ce qu'ils se disaient.
Vous êtes parti combien de temps en Irak ?
Je suis resté 11 mois en Irak. Donc c'était en 2015 en fait. Je suis parti en février 2015 et je suis rentré en décembre 2015. Et 11 mois, c'est très rapide. J'ai pas l'impression d'avoir passé 11 mois là-bas. Mon contrat a duré 11 mois, donc il fallait que je rentre. Mais ça s'est passé très très vite.
Est-ce qu'il y a des choses ou des événements qui vous ont marqué ?
Oui, il y a des événements qui m'ont marqué là-bas, parce que là-bas c'est la guerre, parce que là-bas il y a des gens qui meurent tous les jours, parce que là-bas il y a des gens qui souffrent tous les jours. Il y a des gens qui, comme je vous le disais au début, ont tout perdu, n'ont plus de maison, n'ont plus d'emploi, n'ont plus d'argent. Donc, si vous voulez, j'ai pas vécu d'événements majeurs. J'ai jamais eu peur, j'ai jamais vraiment été confronté à des choses compliquées. Ce pays est compliqué. Donc voilà, quand on travaille en Irak, surtout quand on est journaliste, il faut faire avec. Il faut se préparer à vivre des choses pas faciles tous les jours et à être là aussi pour orienter tous ces gens qui ont besoin de se faire entendre. Donc voilà.
Est-ce que les conditions étaient très difficiles là-bas ?
Très bonne question. J'ai l'habitude de dire non, mais en fait, oui. Donc, c'est oui et non. Moi, j'habitais dans la ville d'Irak, qui est aujourd'hui la ville la plus sûre. Donc, c'est la ville où il y a le moins d'attentats, parce que, comme vous le savez, sans doute, quand vous entendez Bagdad, vous pensez sans doute à attentats, à bombes. L'Irak, c'est ça, il y a beaucoup d'attentats en Irak, sauf dans cette ville où moi, j'ai habité pendant un an, donc au nord du pays. Erbil, donc c'est le nom de cette ville. C'est une ville qui est moderne, où on a tout le confort d'un occidental. Donc le quotidien de ma vie n'était pas difficile. Voilà. Mais quand on vit dans un pays en guerre, on est au contact de gens qui souffrent. Et ce qui était très difficile, c'était effectivement de voir tous ces gens souffrir autour de moi. Après, encore une fois, j'y étais préparé, c'est des choses qui arrivent. Mais il faut aussi savoir que... Ben dans certains pays dans le monde, les gens vivent pas du tout comme nous. Voilà. Quand vous avez perdu des membres de votre famille, quand votre maison a été détruite par un bombardement, quand vous habitez dans une tente ou dans un algéco, parce que les réfugiés vivent dans des tentes ou d'algéco, et ben vous souffrez au quotidien. Donc cette souffrance, moi je vivais dans une maison normale, comme vous, comme tout le monde, mais j'étais entouré de gens qui n'avaient pas ce confort-là, qui n'avaient pas cette chance de pouvoir vivre normalement. Donc c'était plus ça qui était compliqué, leur contact.
Il faut un média comme Radio El Salam, parce qu'ils ont besoin que l'on se penche sur leurs difficultés et finalement sur tout ce qui peut les concerner. Fin du programme pédagogique, place à la musique sur Radio El Salam. Et ce n'est pas la pluie qui découragerait les danseurs ce matin. Il faut dire qu'ici, les occasions de fête sont plutôt rares.
Quand je suis rentré en France, est-ce que ça m'a fait bizarre ? Oui, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre parce que c'est pas, encore comme vous l'avez compris, c'est pas une expérience facile. C'est la guerre, voilà. La guerre, on la voit à la télé, la guerre, on l'entend à la radio, la guerre, on la lit dans les journaux, ou pas d'ailleurs, mais vous avez tous, j'imagine, l'image de la guerre. Bon, quand je vous dis guerre, vous avez des images en tête. Bah là, la différence, c'est que les images, on les a en face de soi. C'est que le son, on l'a à côté de soi. C'est que la guerre, on est à l'intérieur, en fait. Donc forcément, quand on rentre en France, il y a une période de réadaptation qui est pas simple. il faut réapprendre à vivre dans un pays en paix. Parce que vous, vous avez certainement tous toujours grandi en France ou dans un pays où il n'y avait pas la guerre, dans un pays en paix. Mais les réflexes, les façons de vivre, les façons de d'avoir des relations avec les gens également sont complètement différentes dans un pays en guerre. Donc moi, j'ai appris ça là-bas. J'ai appris à vivre avec ces nouvelles règles. Et quand je suis rentré en France, il m'a fallu presque apprendre en fait à vivre en France. Il a fallu presque réapprendre à avoir des relations normales avec les gens, réapprendre à sortir dans la rue sans forcément se dire « attention, fais attention à tel truc, fais attention à tel truc ». Il m'a fallu réapprendre à vivre dans un pays en paix, en fait. On oublie vite la paix, en fait, quand on est dans un pays en guerre. Et ça a été ça, ma principale mission quand je suis rentré.
Vous vous êtes rendu sur les lieux de la guerre ?
Des combats, c'est ça ?
Des combats, ouais.
Et par rapport au combat, c'est quoi ta question ? J'entends mal.
Est-ce que t'as été sur les lieux des combats ?
Oui, j'ai été sur ce qu'on appelle le front. Le front d'une guerre, c'est là où les soldats se battent. Même si la guerre contre Daesh, même si en 2017... Alors vous, l'image que vous avez de la guerre, c'est certainement ce que vous apprend votre prof d'histoire géo, qui vous l'apprend très bien d'ailleurs, j'imagine. Mais c'est la guerre d'un point de vue historique. Donc c'est la guerre d'avant. Voilà. La guerre d'aujourd'hui, la guerre à laquelle se livrent les Irakiens, les Syriens, la coalition, ça n'a rien à voir avec la guerre qu'on a connue entre 1914 et 1918 ou en 39-45. Voilà, c'est pas pareil. C'est pas les mêmes combats. Les gens ne combattent pas à la baïonnette ou au fusil mitrailleur. C'est plus la guerre aujourd'hui en Irak, c'est des avions. C'est des avions qui larguent des bombes. C'est des djihadistes qui se font exploser. Donc qui s'entourent d'explosifs et puis qui se font péter à l'approche d'une patrouille ou à l'approche d'un barrage. Donc le front, tout ça pour vous dire que le front aujourd'hui, c'est pas le front, c'est pas Verdun, quoi. C'est pas le chemin des dames, c'est pas des tranchées. Voilà. La guerre contre Daesh, c'est pas une guerre de tranchées. Donc le front, il est beaucoup plus diffus, si vous voulez. Donc on voit moins de combats quand on est journaliste, mais notre mission à nous, c'est d'aller au plus près aussi des combats. Donc je suis allé effectivement au plus près des combats. J'ai pas vu directement de gens mourir parce que je voulais pas voir de gens mourir. Donc j'ai fait aussi. Il y a quelque chose d'essentiel aussi quand on est journaliste, c'est qu'il faut aussi se protéger. Il faut se protéger parce qu'il y a des choses qui se présentent à nous des fois qui sont choquantes, qui sont trop dures, et on a le droit de dire non à un moment donné. Moi, à plusieurs reprises, quand je suis allé donc sur le front, quand je suis allé au plus près de la guerre, je me suis dit à moi-même, alors on fait ce qu'on veut, hein, c'est soi et soi-même, c'est nous-mêmes qui décidons, personne ne va vous dire avancer de 100 mètres de plus, mais je me suis dit à plusieurs moments, tu t'arrêtes là, tu ne vas pas aller plus loin, parce que ça suffit, parce que tu n'as pas besoin d'en voir plus, parce que tu sais ce qui se passe. Et tu sais ce qui va se passer si tu avances 100 mètres de plus. Donc il y a des morts, il y a des bombes qui tombent, il y a des coups de feu qui sont tirés, voilà. Ça c'est la guerre que se livrent les Irakiens aujourd'hui contre Daesh. Donc je suis allé une dizaine de fois, voilà, au plus près du front.